Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de Carême. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère. Il les fait monter sur une haute montagne à l'écart. Il est transfiguré devant eux. Son visage brille comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie se font voir à eux. Ils parlent avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus,
« Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si tu veux, je ferai trois tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. »
Alors qu'ils parlent encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvre de son ombre et qu'une voix venant de la nuée dit,
« Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. »
En l'entendant, les disciples tombent la face contre terre et ils sont saisis d'un frisson sacré. Jésus s'approche, les touche et dit,
« Relevez-vous et ne frissonnez pas. »
Levant leurs yeux, ils ne voient personne sinon Jésus seul. Ils descendent de la montagne et Jésus leur commande,
« Ne parlez à personne de la vision tant que le Fils de l'homme n'est pas relevé d'entre les morts. »
Les disciples l'interrogent et disent,
« Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir d'abord ?»
Il répond et dit,
« Certes, Élie vient pour tout rétablir. Cependant, je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme doit souffrir par eux. »
Alors les disciples comprennent qu'il a parlé de Jean le Baptiste.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien voilà encore une scène que bien des peintres ont tenté d'illustrer. Mais il faut redire que les images ici ne sont pas simplement des clichés photographiques, elles sont porteuses de réalités spirituelles. De la même façon qu'une icône. Une icône ne cherche pas à reproduire les traits physiques de Jésus. Elle veut d'abord traduire son être spirituel profond, la dimension divine de sa personne. Le langage qui est employé dans ce texte est d'abord symbolique. Le récit utilise des expressions au sens figuré, le visage qui brille comme le soleil, les vêtements qui sont blancs comme la lumière. Mais nous aussi, aujourd'hui encore, nous empruntons des images pour faire comprendre des réalités intérieures. On dit de quelqu'un que son visage était rempli de soleil, qu'il était radieux, ou au contraire que son regard était sombre.
Il me semble qu'avant d'aborder le sens global de notre texte, il peut être utile de clarifier les symboles employés.
Alors d'abord la haute montagne, eh bien, on a souvent voulu préciser la situation. Où se trouvait cette haute montagne? Est-ce que c'est le mont Hermon qui est au nord de la Galilée? Est-ce que c'est le mont Tabor qui est proche de Nazareth? L'évangéliste ne le dit pas et c'est peut-être intentionnel. Pour nous dire, cette montagne élevée, c'est le lieu symbolique de la rencontre spirituelle avec Dieu. C'est le moment où l'esprit humain s'élève pour aller à la rencontre du Très-Haut. Ce haut lieu où l'on rencontre le divin, eh bien, on le trouve fréquemment dans la Bible. Moïse, Élie feront une telle expérience sur le mont Sinaï, qui est un mont proche de la mer Rouge. En ne nommant pas la montagne, peut-être que l'évangéliste veut nous renvoyer au mont Sinaï pour faire justement le lien entre l'expérience de Jésus et celle de Moïse et d'Élie. Autre image, la nuée lumineuse. Eh bien, dans la Bible, elle est un symbole qui veut décrire la présence de Dieu. Moi, j'aime penser pour cette image à la lumière du soleil qui perce derrière un épais brouillard. On ne voit pas le soleil, mais cette lumière qui est là nous dit sa présence. De la même façon qu'on ne voit pas Dieu, mais que la création tout entière dit son existence. On trouve d'ailleurs mention de cette nuée lumineuse dans les textes de l'Exode.
La nuée couvrait la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur emplit la demeure.
Le visage maintenant qui brille comme le soleil, on trouve ça aussi comme dans l'Exode. Écoutons, c'est au chapitre 34.
Quand Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant à la main les tables de la Torah, il ne savait pas que son visage était devenu rayonnant en parlant avec le Seigneur.
Celui qui a fait la rencontre spirituelle de Dieu est transformé intérieurement et son visage rayonne. Au chapitre 13 de Matthieu, on nous dit qu'il en sera ainsi pour nous au-delà de notre mort.
Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà donc les symboles éclairés. Mais quelle est la signification profonde de cette expérience?
Bien, pour bien comprendre, il est peut-être utile de revoir encore la place de ce texte dans tout le récit de Matthieu. Cet épisode est situé dans le prolongement de la première annonce de la Passion. Dans le récit de Jean, après la multiplication des pains et la défection de nombreux disciples, Jésus a posé, j'allais dire, la question de confiance aux douze. Et vous, est-ce que vous n'allez pas partir vous aussi? Et Simon-Pierre a répondu,
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle.
Dans le récit de Matthieu, Jésus pose la question de son identité. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est encore Simon-Pierre qui répond,
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Il semble bien que c'est à ce moment-là de son ministère que Jésus commence à parler ouvertement de sa décision de monter à Jérusalem où il sait qu'il va être arrêté et condamné à mort. Et Pierre ne saisit pas. Ou alors au contraire, il comprend trop bien Jésus et il exprime son désaccord. Et alors Jésus le traite de Satan, c'est-à-dire de tentateur. Et ce qui divise Jésus et Pierre, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Quel sens peut avoir le fait que Jésus livre sa vie, se laisse condamner, se laisse tuer? Et cette question ne concerne d'ailleurs pas seulement Jésus, mais elle concerne aussi tous ceux qui le suivent. Jésus s'en explique lui-même au chapitre 16 de Matthieu.
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même et prenne sa croix. Qui veut sauver sa vie, la perdra. » Quel avantage l'humain aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie?
Alors comment comprendre ces phrases? Si Jésus ne se livre pas à ses adversaires, s'il veut sauver sa vie physique, il affirme qu'il perdra sa vie, c'est-à-dire qu'il perdra son âme, sa vie spirituelle, sa vie intérieure. En effet, refuser de livrer sa vie, c'est choisir ou bien de fuir, ou bien tenter de résister à ses adversaires d'une façon qui ne pourra être que violente. Ceux qui veulent le faire mourir le font en croyant, en effet, sauver l'honneur de Dieu, car Dieu pour eux est un Dieu puissant, le juste juge qui punit les méchants et qui récompense les bons. Et ce Dieu puissant devient un Dieu exigeant qui fait passer la prière et les offrandes au temple avant le secours qu'il faut porter aux faibles, un Dieu qu'on doit honorer le sabbat au détriment de porter secours à son prochain, un Dieu qu'on sert en obéissant servilement à ses lois plutôt qu'en l'aimant dans l'amour du prochain. Ce visage de Dieu, qui est souvent le nôtre, est un Dieu à mesure humaine, un Dieu que nous faisons semblable à nos propres réactions. Eh bien, ce n'est pas le Dieu de Jésus. Le Dieu que Jésus a prêché, c'est au contraire le Dieu miséricordieux, un Dieu pardonnant 77 fois cette fois. Et ce sera cette vision de Dieu qu'on va reprocher finalement à Jésus. Pour ses adversaires, Dieu est sans doute bon, mais avant tout, il est juste. Eh bien, Jésus, d'une certaine manière, affirme le contraire. Dieu est certes juste, mais avant tout, il est bon et plein de compassion. Dieu est le père de l'enfant prodigue qui donne son pardon sans condition et avec joie. Dieu est le propriétaire de la vigne qui paye aussi bien ceux qui ont travaillé une heure que ceux qui en ont travaillé 12. Ce message d'un Dieu bon, Jésus n'a pas pu le faire admettre par les prêtres, par les riches, par les gens instruits. Car ce Dieu-là, pour eux, apparaît trop bonasse. Et peut-être aussi qu'ils voient son pardon comme une sorte d'injure à leur responsabilité, à leur dignité humaine. Mais surtout, ce Dieu est peut-être trop dérangeant. En effet, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu gratuitement sans être entraîné à notre tour à aimer gratuitement jusqu'au pardon. Eh bien, face à ses adversaires qui contestent la bonté, le pardon de Dieu, Jésus ne peut que témoigner jusqu'au bout de bonté et de pardon. Vouloir convaincre par d'autres moyens de que son regard sur Dieu est vrai, ce serait renier ce visage du Dieu d'infinie bonté, et ce serait se renier lui-même, perdre son âme. On peut dire d'ailleurs que nous pouvons vivre des choses semblables, sans doute avec moins d'extrême et avec moins de sainteté, mais quelqu'un qui voit l'un de ses compagnons calomnié par d'autres d'une façon injuste et qui ne vient pas le défendre parce qu'il a peur, il sauve peut-être sa vie, sa tranquillité, mais il a perdu un peu de son âme, un peu de son honneur. Et si on perd ainsi son âme et qu'on meurt dans cet état, dans d'une certaine manière un égoïsme choisi, eh bien on se condamne à une vie éternelle qui sera sans bonheur. Alors que mourir en aimant, en livrant sa vie par amour, c'est au contraire se présenter devant Dieu avec un cœur disponible à une vie éternelle de communion avec Dieu et avec les autres. Cette intuition de l'éternité bienheureuse de ceux qui meurent ainsi dans l'amour, eh bien on la retrouve déjà dans certains textes de la Bible. Écoutons le livre de la sagesse au chapitre 3.
L'âme des justes est dans la main de Dieu. Leur exode a semblé un malheur. Pourtant, leur espérance était pleine d'immortalité. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront. Le Seigneur Dieu sera leur roi pour toujours. Ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront auprès du Seigneur.
Voilà donc la sagesse que Jésus propose à ses disciples. À Pierre, qui refuse la perspective de la croix, Jésus veut faire comprendre qu'on ne peut suivre Dieu et demeurer dans son amour, dans sa communion, qu'en allant librement vers la croix. Et c'est là sans doute le but de cette retraite qu'il fait faire à trois de ses disciples sur la montagne. Eh bien, on va voir que la fête juive des tentes comportait un message assez semblable à ce message de Jésus qui annonce sa passion. À l'origine, la fête des tentes rendait grâce à Dieu pour les récoltes. Et comme la fête durait 8 jours, on se construisait des tentes de branchages pour dormir sur place. Mais au fil des ans, la fête s'était chargée d'autres significations. Elle rappelait que Dieu avait été présent au milieu de son peuple pendant que celui-ci gagnait la terre de Palestine après sa sortie d'Égypte. Écoutons le Targum Néophyti.
Pendant 7 jours, vous demeurerez dans des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans la nuée de la gloire de ma tente sainte, au temps où je les fis sortir d'Égypte.
En effet, lors de l'Exode, la nuée avait recouvert la tente où Moïse faisait la rencontre de Dieu, et cette nuée était donc devenue comme le symbole de la présence de Dieu. Demeurer sous la tente, donc, pendant les 8 jours de cette fête, signifiait participer à l'expérience spirituelle des ancêtres et entrer comme eux dans la communion avec Dieu. Mais la fête des tentes évoquait aussi qu'on était dans la tente du Messie. Au cours d'une procession, Pendant cette fête, on intronisait le Messie en le revêtant de blancheur et de lumière et en le célébrant comme étant la parole même de Dieu. Le livre juif des Jubilés, qui est un livre qui est presque contemporain des Évangiles, annonçait que le Messie attendu lors de la fête des Tentes serait un Messie souffrant. Et cela rejoint bien sûr le livre de Zacharie qui évoque ce Messie humble qui délaisse les chevaux de guerre pour monter simplement sur un ânon très pacifique.
Tressaille d'allégresse, peuple de Jérusalem, pousse des acclamations. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un tout jeune ânon. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix avec tous les peuples.
Dans le récit de la Transfiguration, la voix de Dieu reprend précisément le passage du prophète Isaïe sur le serviteur souffrant.
Voici mon serviteur, mon aimé en qui je trouve ma joie. J'ai mis mon esprit en lui.
Et la voix divine demande d'écouter ce fils, comme la liturgie de la fête des Tentes le disait, « Ô mon peuple, si tu pouvais m'écouter ». Ainsi la mention de la nuée, des Tentes, la voix qui reprend le chant du serviteur en Isaïe, tout cela nous oriente vers cette fête juive de la fête des Tentes. Et on pense que ce serait dans le cadre de cette fête que Jésus a fait vivre une expérience profonde à ses disciples, afin qu'ils comprennent qu'il est bien le Messie, le serviteur souffrant, un Messie aimant divinement jusqu'à l'offrande de sa vie sur la croix, et non pas le Messie triomphant, selon des vues trop humaines. Et si Jésus est bien celui qu'il faut écouter, c'est parce qu'il est justement le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui connaît le Père et donc qui peut nous le faire connaître. Tout un chapitre d'ailleurs du récit évangélique de Jean est consacré à la fête des Tentes. Jésus y enseigne dans le temple et il s'efforce de convaincre les Juifs de la vérité de son enseignement quand il demande de préférer la miséricorde aux offrandes du culte et de faire passer le secours à apporter au prochain avant une observation stricte du repos du sabbat. Écoutons ces phrases de Jésus au chapitre 7 de Jean.
« Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moïse vous a donné la circoncision et vous la pratiquez un jour de sabbat. Si donc un homme peut recevoir la circoncision un jour de sabbat sans que la loi de Moïse soit violée, pourquoi vous irritez contre moi? Parce que j'ai guéri complètement un homme un jour de sabbat. Cessez de juger selon l'apparence. Apprenez à juger selon ce qui est juste. »
Oui, ce qui va attester la vérité de l'enseignement de Jésus, qui va confirmer sa vision de Dieu comme un Dieu qui est bon et qui pardonne, mais c'est l'expérience de communion intense avec le Père qu'il va faire en présence des trois apôtres dans ce moment de prière sur la montagne. Une expérience qui rend son visage rayonnant d'amour. Cette expérience, elle est dans la suite de celle de Moïse et Élie. C'est en effet sur le mont Sinaï que Élie et Moïse ont fait une rencontre mystique de Dieu. Et le mot mystique est un mot qui veut évoquer une expérience certes extraordinaire, mais qui n'est pas irréelle, au contraire, c'est une expérience réelle de communion avec l'invisible. Tout chrétien, d'une certaine manière, peut faire cette expérience s'il sait écouter l'Évangile dans la prière. Avec l'aide de l'Esprit divin qui éclaire son cœur, l'Évangile est alors accueilli comme la parole même de Dieu qui va inspirer sa vie. Un texte de l'Exode nous parle de cette expérience mystique faite par Moïse sur la montagne.
Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » Moïse monta sur la montagne. Alors la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. Le Seigneur passa devant lui et proclama son nom. Le Seigneur Dieu, Dieu miséricordieux, bienveillant, qui reste fidèle et supporte la faute. Quand Moïse descendit de la montagne du Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur Dieu.
Eh bien, on voit bien comment la méditation de Jésus et des disciples peut s'être nourrie de cet épisode. Dieu confirme à Moïse qu'il est bien le miséricordieux, le Dieu du pardon et de la bonté. Et avec Jésus, eh bien, Dieu va confirmer qu'il doit être écouté. Moïse, d'ailleurs, avait dit à son peuple avant de mourir, « C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, et c'est lui que vous écouterez. » Eh bien, Jésus est le nouveau Moïse, et son visage est transformé lorsqu'il parle face à face avec le Père.
Que signifie la présence d'Élie ?
Eh bien, si Moïse représente le don de la règle de Dieu, de sa règle de vie, de la Torah, Élie est le représentant de tous les prophètes, et les prophètes ont mission de rappeler la Torah lorsque le peuple lui est infidèle. Eh bien, Élie a lui aussi fait la rencontre de Dieu sur le Sinaï. Pour Élie, Dieu ne sera ni dans le tremblement de terre, ni dans la foudre. Il va, au contraire, lui parler dans le bruissement d'un souffle léger. Eh bien, tremblement de terre et foudre, ce sont les symboles d'un Dieu puissant. Ils peuvent évoquer le juste châtiment de Dieu pour punir ceux qui font le mal. Le souffle évoque au contraire l'action créatrice de Dieu. Et le pardon est une action créatrice, recréatrice. Dieu maintiendra un petit reste de croyants fidèles. C'est la promesse qu'il a faite à Élie.
Je laisserai en Israël un reste de 7000 hommes. Tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant le Baal.
Le Baal, c'est le nom des dieux païens, des idoles. Et c'est intéressant de voir comment, dans la lettre aux Romains, Paul va reprendre ce texte et nous l'expliquer.
Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes non. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint à Dieu ? Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Moi seul, je suis resté et ils en veulent à ma vie. Mais que lui répond Dieu ? Je me suis réservé 7000 hommes. De même, dans le temps présent, il y a aussi un reste selon le libre choix de sa grâce.
Oui, Paul évoque ce texte pour montrer qu'on est sauvé, non pas d'abord par ce qu'on fait de bien, mais à cause de l'amour gratuit de Dieu qui pardonne. Ainsi, on peut penser que sur cette montagne, avec Jésus et les trois apôtres, Élie est là pour témoigner que Dieu est le Dieu de la grâce et de l'amour. Malgré la violence faite à Élie, au prophète, Dieu demeure le Dieu d'amour qui pardonne 77 fois cette fois. Eh bien, il en sera ainsi pour ceux qui auront tué Jean le Baptiste, le nouvel Élie, et pour ceux qui vont tuer Jésus, le Fils de l'homme.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner ?
Eh bien, ce sont les trois apôtres qui seront aussi ceux qui vont être les témoins de son agonie.
Il arrive à un domaine du nom de Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commence à ressentir frayeur et angoisse.
Oui, la communion d'amour avec Dieu que vit Jésus ne supprime pas l'épreuve. J'allais dire même au contraire, elle en est la cause. Mais si elle est la cause de cette épreuve de la croix, elle en assure aussi le terme. Car c'est l'amour qui sera finalement vainqueur du mal. Dieu réveillera de la mort ce Jésus qui aura choisi de livrer sa vie plutôt que de perdre son âme en reniant l'amour, la bonté et le pardon. et c'est cette certitude de l'amour victorieux qui déjà fait rayonner le visage de Jésus sur la montagne.
En quoi cette expérience faite par les trois apôtres vaut-elle pour les disciples d'aujourd'hui?
Eh bien, il appartient, je crois, à chacun des disciples de Jésus de se poser chaque jour la question « Aujourd'hui, est-ce que j'ai accueilli le pardon d'amour de mon Père et qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que j'ai vécu de cette certitude que Dieu peut tout accomplir en moi ? Est-ce que j'ai vécu de cette espérance qu'il peut changer mon cœur de pierre pour un cœur de chair ? Pour le prochain que j'ai rencontré aujourd'hui, que je vais rencontrer aujourd'hui, est-ce que je vais vivre le pardon dont Dieu m'a fait le témoin, d'un pardon qui est plus fort que le mal, plus fort que l'égoïsme, que l'injustice, plus fort que la méchanceté, la violence, la vengeance, la haine? Aujourd'hui, est-ce que je vais écouter le Père à travers Jésus qui est son bien-aimé? Aujourd'hui, est-ce que je peux entendre Dieu me dire que je suis le bien-aimé en qui il trouve sa joie?
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Un petit avis pour ceux qui aiment partager l'Évangile ou qui voudraient partager l'Évangile, il y a à Laval une journée de ressourcement le samedi 6 mars de 9h30 à 15h à la paroisse Saint-Elzéa. Le thème en est la lecture priante de l'Évangile et ce sera animé par Monsieur Paul-André Giguère qui est professeur à l'Institut de Pastoral. Cela coûte $5 par personne. On apporte son lunch. Pour renseignement, Luc Veilleux, 450-665-1865. 450-665-1865.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.